Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers amis, mes bien chers frères, nous fêtons aujourd'hui cette magnifique fête de la Toussaint, la fête qui nous rappelle où nous devons aller, la cause finale de notre existence ici-bas sur la terre. Nous sommes créés pour un jour rejoindre Dieu dans la joie du ciel et des élus. C'est pour cela que nous sommes baptisés, c'est pour cela que le bon Dieu nous donne les grâces jour après jour, afin que nous sachions petit à petit, avec sa grâce encore une fois, de couper de l'esprit du monde pour monter vers le bon Dieu. Et cette fête de la Toussaint doit nous donner une joie extraordinaire. Certes, nous ne sommes pas encore au ciel, mais cela doit nous rappeler qu'un jour, avec sa grâce, avec la grâce du bon Dieu, nous espérons y aller. Le ciel, c'est pour nous. Et le bon Dieu au ciel nous prépare une place différente pour chacun d'entre nous. Combien de personnes sont devenues des saints, justement, en réalisant qu'ils avaient été créés pour le ciel? Prenez même le cas, par exemple, d'une des plus grandes saintes de tous les temps, Sainte Thérèse d'Avila, la grande sainte espagnole. Au début de sa vie religieuse, carmélite, avant qu'elle entreprenne avec Saint Jean de la Croix la réforme du Carmel en Espagne, elle était un petit peu mondaine. Selon les coutumes de l'époque, dans la vie religieuse des carmélites, beaucoup des carmes de l'époque vivaient une vie totalement mondaine. Et un jour, notre Seigneur Jésus-Christ lui apparaît en lui disant, « Thérèse, je vais vous montrer la place que je vous ai gardée en enfer au cas où vous ne deveniez pas une sainte. » Elle explique dans son autobiographie que pendant quelques minutes, elle a été placée dans un réduit très étroit et elle a subi pendant quelques secondes qui lui parurent une éternité, elle a subi les peines de l'enfer. Elle a souffert les peines de l'enfer. Et lorsqu'elle est revenue à ses sens, et que notre Seigneur Jésus-Christ l'a libéré en quelque sorte de cette horrible souffrance, elle est devenue pratiquement du jour au lendemain Sainte Thérèse d'Avila, parce qu'elle avait vu et compris qu'elle était faite pour le ciel et pas pour l'enfer. Alors, mes bien chers frères, nous devons méditer sur la grandeur de l'Église. Je pense que toutes ces grandes fêtes de la fin du mois d'octobre et du début du mois de novembre qui sont unies, c'est-à-dire la fête du Christ roi le dernier dimanche d'octobre, la fête de la Toussaint au 1er novembre, la fête des morts le jour du 2 novembre, sont unies parce que ces fêtes nous rappellent justement que nous faisons partie d'une de ces trois parties de l'Église. Soit l'Église militante, l'Église d'ici-bas, c'est la fête du Christ-Roi, soit l'Église du ciel, l'Église triomphante, c'est la fête du 1er novembre, de la Toussaint, soit l'Église souffrante, l'Église du purgatoire, c'est la fête des morts du 2 novembre. Car hors de l'Église catholique, personne ne peut être sauvé, donc on ne peut pas être sauvé sans appartenir à au moins une de ces églises, l'Église militante, l'Église souffrante, ou bien sûr l'Église triomphante. L'Église souffrante, au moins on est sûr d'aller au paradis. Après un temps de purification purgatoire. Quant à l'Église militante, attention, on peut être membre de l'Église militante ici-bas et perdre son âme parce qu'on a le malheur de mourir en état de péché mortel. Alors pour vous aider à comprendre toutes ces choses et vous donner bien l'esprit d'Église qui est tellement importante aujourd'hui alors que les prêtres de l'Église moderne courent droit dans le mur, eh bien, il nous faut rappeler la tradition catholique de l'Église, le catéchisme traditionnel de l'Église. Je voudrais rappeler un texte que vous connaissez sans doute, c'est le texte que le pape Pie XI, en 1925, lorsqu'il a établi la fête magnifique du Christ-Roi par l'encyclique Quas Primas, il avait écrit un texte, la consécration du genre humain, que vous trouvez pratiquement tous les missels anciens. Et je voudrais vous relire et commenter rapidement certaines de ces paroles magnifiques de cette consécration. Je voudrais vous la relire parce qu'elle est une mine pour l'oraison et la méditation. Voilà ce que disait le pape Pie XI, très doux Jésus, rédempteur du genre humain, jetez un regard sur nous qui semble humblement prosternés devant votre autel. Nous sommes à vous et nous voulons être à vous, et afin de vous être plus étroitement unis, voici que, en ce jour, chacun de nous se consacre spontanément à votre sacré cœur. N'oublions pas que la première condition pour pouvoir être écouté de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est d'être humblement prosterné devant son autel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'avoir la vertu d'humilité. Ce qui nous coupe de Dieu, c'est l'orgueil. Ce qui nous rapproche de Dieu, c'est l'humilité. Beaucoup, dit Pie XI, ne vous ont jamais connu. Beaucoup ont méprisé vos commandements et vous ont renié. Miséricordieux Jésus, ayez pitié des uns et des autres et ramenez-les tous à votre sacré cœur. Une seule église, un seul Dieu, un seul troupeau, un seul pasteur, un seul sacré cœur. Et donc, il nous faut prier en ces périodes très importantes pour l'église, avec ces fêtes magnifiques. Eh bien, il nous faut prier pour que justement ceux qui ont quitté le bercail, le tabernacle de notre Seigneur Jésus-Christ, puissent y revenir. Le monde moderne est littéralement composé presque, en grande partie au moins en Europe, et surtout en France, d'apostats. Les apostats sont partout autour de nous. Des gens qui ont été baptisés par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, des gens qui ont été baptisés par le baptême catholique, qui ont tout envoyé promener, qui vivent maintenant comme des animaux. Alors il faut prier pour eux, c'est ce que fait le pape Pie XI. Seigneur, soyez le roi, non seulement des fidèles qui ne se sont jamais éloignés de vous, mais aussi les enfants prodigues qui vous ont abandonnés. Faites qu'ils rentrent bientôt dans la maison paternelle pour qu'ils ne périssent pas de misère et de faim. Beaucoup d'entre nous, nous sommes des enfants prodigues. Nous aussi, nous avons demandé à notre Père la part de notre héritage et nous sommes perdus. Nous avons tout envoyé promener parce que nous voulions vivre comme les gens du monde. Et le Père prie pour nous. Et il accueille son fils prodigue qui revient et qui lui dit « Père, pardonnez-moi parce que j'ai péché contre le ciel et contre vous. Acceptez-moi à la maison, de nouveau, dans la maison paternelle comme le dernier de vos serviteurs. » Soyez le roi, dit le pape Pie XI, le roi de ceux qui vivent dans l'erreur et ou que la discorde a séparé de vous. Ramenez-les au port de la vérité et à l'unité de la foi afin que bientôt il n'y ait plus qu'un seul troupeau et qu'un seul pasteur. Voilà le véritable écuménisme de l'Église catholique. C'est un écuménisme centrifuge, ça veut dire un écuménisme qui ramène les égarés vers le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc tous ceux qui vivent dans l'erreur, dans la discorde, que la discorde a séparé de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut qu'ils utilisent cet esprit de charité de l'Église catholique, c'est-à-dire le véritable écuménisme catholique, pour qu'ils reviennent vers notre Seigneur Jésus-Christ. Au contraire, l'écuménisme fou de Bergoglio de l'Église de Vatican II est un écuménisme centripète, c'est-à-dire un écuménisme qui nous éloigne de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous chasse de l'Église. Et le pape Pie XI a le véritable esprit écuménique, le véritable écuménisme catholique. Soyez, dit-il, le roi de tous ceux qui sont encore égarés dans les ténèbres de l'idolâtrie ou de l'islamisme. Et ne refusez pas de les attirer tous à la lumière de votre royaume. Nous sommes islamisés en France, détruits par l'islam, parce que nous ne prions pas pour la conversion de l'islam, pour la conversion des musulmans. Prions, mes bien chers frères, pour que ces gens se convertissent, parce que s'ils ne se convertissent pas, ils nous convertiront à leur fausse religion. C'est le Charles de Foucault qui avait prédit en son temps à Talal Mrasset dans le Hogar algérien. Il disait déjà à l'époque, si nous ne convertissons pas les musulmans, ils nous envahiront et ils détruiront complètement notre religion. C'est exactement ce qui se passe. Prions pour la conversion des musulmans, parce que si nous ne prions pas pour la conversion des musulmans, c'est nous qui risquons de nous convertir à la fausse religion de l'islam. Regardez, enfin, dit le pape Pie XI, avec miséricorde, les enfants de ce peuple qui fut jadis votre préféré, que sur eux aussi descendent, mais aujourd'hui en baptême de vie et de rédemption, le sang qu'autrefois ils appelaient sur leur tête. Là, le pape Pie XI fait allusion aux juifs, évidemment. Il nous demande non seulement de prier pour les musulmans, mais aussi de prier pour les juifs. Les Juifs ont été pendant un temps, pendant l'Ancien Testament, ils ont été le peuple élu, attention. Ils ont été choisis par notre Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement, ils ont été infidèles. Et lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est arrivé, quand Dieu a envoyé son Fils unique venir sur ce monde par le mystère de l'incarnation, eh bien, ils l'ont crucifié au lieu de l'accepter. Mais le bon Dieu et l'Église catholique nous demandent de prier pour eux, pour qu'eux s'y reviennent, eux aussi reviennent à Dieu. N'oublions pas que Saint Paul lui-même précise qu'un jour, il y aura la conversion d'une partie du peuple hébreu. Un terme un peu mystérieux, mais qu'il nous faut respecter. Accordez, conclusion du pape XI, accordez, Seigneur, à votre Église une liberté sûre et sans entrave. Accordez à tous les peuples l'ordre et la paix. Faites que d'un pôle du monde à l'autre, pardon, une seule voix retentisse. Loué soit le divin cœur qui nous a acquis le salut. À lui, gloire et honneur dans tous les siècles. Ainsi soit-il. Mais c'est ça le vrai, véritable écuménisme. Qu'est-ce que demande le pape XI, pardon? Il demande que le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ se diffuse partout par son Église militante. Le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, le règne de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas mis en cause au purgatoire dans l'Église souffrante, évidemment. Et bien sûr, jamais remise en cause dans l'Église triomphante au ciel. Mais ici-bas sur la terre, c'est le combat, c'est la bagarre. Soit nous suivons notre Seigneur Jésus-Christ pour essayer comme membre de l'Église militante ici-bas sur la terre, de nous battre, parce que l'Église militante, c'est l'Église des soldats de notre Seigneur Jésus-Christ, et en tant que confirmés, nous sommes tous des soldats. Soit malheureusement, nous quittons cette Église militante ici-bas sur la terre, et à ce moment-là, ce sera l'horreur de l'enfer. Il y a un autre texte qui nous aide à comprendre l'importance de l'Église. Puisque toutes ces fêtes, la fête de la Toussaint, encore une fois, c'est la fête de l'Église. Il y a dans les prières instituées par le pape Pie XI, il y a pour la fête du Christ-Roi une magnifique préface, la préface du Christ-Roi. Je vous en lis une partie qui explique de façon extraordinaire quel doit être notre état d'esprit dans ce domaine. Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, vous qui avez oint d'une onction d'allégresse votre Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, le prêtre éternel et le roi de l'univers, pour que, s'immolant lui-même sur l'autel de la croix, victime sans tache et pacifique, il accomplit le mystère sacré de la rédemption des hommes, et que, soumettant toutes les créatures à son empire, il remit à votre infinie majesté le royaume éternel et universel. La soumission de toutes les créatures à son empire, c'est ça l'apostolat catholique. C'est ça l'esprit missionnaire, cet esprit missionnaire qui a complètement disparu dans l'Église de Vatican II. Alors, il va remettre à votre infinie majesté le royaume éternel et universel, le royaume de vérité et de vie, le royaume de la sainteté et de la grâce, le royaume de la justice, de l'amour et de la paix. Voyez, mes bien chers frères, si nous suivons notre Seigneur Jésus-Christ, si nous sommes membres de l'Église militante, si nous sommes vraiment des bons soldats du Christ, eh bien, nous ouvrirons les portes de l'Église pour que de plus en plus d'âmes étrangères à l'Église puissent revenir vers le bercail, pour qu'il n'y ait qu'un seul troupeau et qu'un seul pasteur. Et comme ces textes sont beaux, oui, ça nous aide à méditer, je crois, la fête de la Toussaint, qui est inséparable de la fête du Christ-Roi. Je voudrais vous citer aussi un autre texte magnifique qui nous aide à comprendre. C'est le texte de l'épître de Saint Paul aux Colossiens que l'on trouve comme épître du dimanche du Christ-Roi. Voilà ce que dit Saint Paul. Rendons grâce à Dieu le Père, qui nous a rendus dignes d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a arraché la puissance des ténèbres et nous a transplantés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés, qui est l'image de Dieu invisible, premier né de toute créature, parce qu'en lui tout a été créé, au ciel et sur la terre, les choses visibles, les choses invisibles, les trônes, les dominations, les principautés, les puissances, tout a été créé par lui et pour lui. Et il est lui avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Et lui-même est la tête du corps de l'Église. Il est le principe, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en toutes choses le premier, car il a plu au Père que toute plénitude résidât en lui, et par lui de réconcilier toutes choses en lui, soit celles qui sont sur la terre, soit celles qui sont dans le ciel, en rétablissant la paix par le sang de sa croix, en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc le triomphe de l'Église militante sera effectué par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, signant en quelque sorte la paix par le sang de sa croix. Et où trouve-t-on ce sang? On trouve ce sang, mes bien chers frères, on trouve ce sang sur l'autel de la messe. Voilà pourquoi il ne peut pas y avoir d'Église triomphante sans sacrifice de la messe. Et c'est l'Église triomphante, c'est le Saint-Sacrifice de la messe qui va nous faire passer de l'Église militante, l'Église d'ici-bas, à l'Église triomphante, l'Église du ciel, en passant bien souvent par le purgatoire. Alors nous serons totalement dans un autre monde. Et cet autre monde, il est expliqué très bien dans l'évangile que l'Église a choisi pour la fête de tous les saints. Cet évangile, c'est l'évangile des béatitudes. Et là, on n'est plus dans ce monde ici-bas, on est dans le monde du ciel. Jésus, voyant les foules, gravit la montagne. Et quand il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et prenant la parole, il se mit à les instruire en disant « Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux ceux qui sont doux, car ils posséderont la terre. Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront eux-mêmes miséricorde. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bienheureux les pacifiques, car ils seront appelés enfants de Dieu. Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux vous serez lorsqu'on vous maudira, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous alors et tressaillez de joie, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. » Là, c'est l'Église triomphante. L'évangile de l'Église triomphante, c'est l'évangile des béatitudes, mes bien chers frères. Alors, il nous faut méditer sur ces textes magnifiques. Reprenez, relisez par vous-même, tous ceux qui m'écoutent sur Internet, relisez par vous-même la préface du Christ roi, l'épître du Christ roi, l'évangile magnifique de la fête de la Toussaint. La fête de la Toussaint, c'est l'accomplissement de l'Église triomphante, de l'Église militante. L'Église militante mène à l'Église triomphante. Donc, quand saint Paul nous dit que la paix arrivera par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, que la purification se fera par le sang de sa croix, renouvelé, ce mystère de la croix renouvelé au sacrifice de la messe, eh bien, il nous fait comprendre que par ce sacrifice de la messe, par le sang qui arrive sur l'autel, par les paroles de la consécration, eh bien, on arrive déjà en quelque sorte, dès ici-bas, par esprit au moins, à l'Église triomphante, à l'Église du ciel. Et quand nous communions à ce corps, ce sang, cette âme et cette divinité, nous avons déjà, dans notre âme, déjà un bout de ciel qui est là. C'est une participation directe au ciel de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme il est important, mes bien chers frères, de méditer ces choses-là. Si nous méditons justement sur ces béatitudes bien magnifiques qui sont tellement difficiles à comprendre dans le monde moderne, qui sont aux antipodes du monde moderne, à ce moment-là, nous pourrons nous préparer et nous mettre sur la route du ciel. Quand l'Évangile nous dit « Bienheureux les pauvres en esprit », le monde moderne va vous dire « Bienheureux les orgueilleux ». Quand notre Seigneur Jésus-Christ nous dit « Bienheureux ceux qui sont doux », le monde moderne va vous dire « Bienheureux ceux qui possèdent le tout par violence ». Quand notre Seigneur Jésus-Christ « Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés », le monde moderne vous dit « Bienheureux ceux qui rient, ceux qui s'amusent toute la journée ». Quand notre Seigneur nous dit « Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice », eh bien l'Église moderne va vous dire, ou le monde moderne va vous dire « Bienheureux ceux qui ont soin et soif des choses matérielles ». Au lieu de se remplir du pain de la justice divine, du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le monde moderne, l'Église catholique, l'Église de Vatican II va vous pousser à vous remplir des choses modernes, des choses du monde moderne, ce monde qui est ennemi de Dieu. Et si on remplit son âme avec toutes les choses matérielles qui nous entourent, il n'y a plus de place pour le bon Dieu. Quand Dieu nous dit « Bienheureux les miséricordieux », le monde moderne, au contraire, vous dit « Bienheureux ceux qui sont violents, bienheureux ceux qui oppriment les pauvres, bienheureux ceux qui oppriment les gens autour d'eux, bienheureux ceux qui ont toutes les richesses du monde, tous les plaisirs du monde. » Quand notre Seigneur nous dit « Bienheureux ceux qui ont le cœur pur », eh bien l'Église moderne et le monde moderne nous dit « Bienheureux au contraire ceux qui vivent dans l'impureté jusqu'au cou ». Et si le monde moderne nous pousse à vivre dans les impuretés contre nature, c'est bien pour nous rendre impossible ce chemin qui n'est ouvert vers le ciel que pour ceux qui ont le cœur pur. Et quand on entend Bergoglio nous dire qu'il ne peut pas juger ceux qui vivent dans les péchés, les vices contre nature de la sodomie, eh bien, on ne peut que pleurer et gémir parce qu'il coupe le chemin du ciel à des millions d'âmes. Au lieu de rappeler ce que l'Église catholique a toujours enseigné, à savoir que ceux qui vivent dans ces péchés de sodomie commettent un péché épouvantable que l'Église classe parmi les péchés qui crient vengeance contre le ciel. Quand notre Seigneur enseigne bienheureux les pacifiques, eh bien le monde moderne, au contraire, nous demande de nous battre pour les choses matérielles, pour les choses de ce monde, bienheureux les violents, encore une fois. Quand notre Seigneur nous dit bienheureux ceux qui souffrent persécution, eh bien, le monde moderne va vous dire bienheureux ceux qui persécutent l'Église catholique. Il suffit de voir l'attitude de nos gouvernements en France contre l'Église catholique. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ nous dit bienheureux vous serez lorsqu'on vous maudira, qu'on vous persécutera, qu'on vous dira faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Eh bien, le monde moderne, au contraire, nous demande de participer à cette grande campagne d'apostasie contre notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, mes bien chers frères, demandons à notre Mère du ciel, n'oublions pas que même ces béatitudes magnifiques, elles nous sont données par la très sainte Vierge Marie. C'est le sommet de la vie spirituelle. Le sommet de la vie spirituelle, eh bien, c'est tout simplement les béatitudes. Donc, demandons à Notre-Dame de nous aider à comprendre toutes ces belles choses, à les mettre en pratique, pour qu'en méditant sur la fête de la Toussaint, nous comprenions que notre premier devoir d'État, c'est de nous mettre sur le chemin qui mène au ciel, pour qu'un jour nous soyons tous réunis là-haut. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit.